1079.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 23 décembre. Bonjour Anaïs Feugard.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une ce matin, le rideau tombe sur les théâtres et les cinémas en Belgique à partir de dimanche et peut-être d'autres restrictions à venir devant l'avancée du variant Omicron. Les autres titres.
Le contrat du siècle pour Marignane, 10 milliards d'euros la commande de l'armée à Airbus. La gauche menacée de disparition au Parlement, les négociations en vue des législatives sont au point mort. Et puis les plats, des dessins animés dans un livre de recettes, idées cadeaux pour Noël.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous Alexandra Ben Saïd.
C'est la comédienne et humoriste Camille Chamou qui croque si bien les cadras névrosés face aux boomers qui ne veulent rien lâcher. Son dernier spectacle est une bouffée d'oxygène. On a besoin de rire, Jérôme, alors rendez-vous à 7h50.
Et puis à 8h20, le bien-être animal en débat avec deux invités, une philosophe, directrice de recherche à l'INRA, c'est Florence Burga, et le président de la Fondation du droit animal, Louis Schweitzer. J'attends vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
L'Europe à nouveau dans l'œil du cyclone Covid. C'est la région du monde qui enregistre actuellement le plus de cas. Un chiffre clé, le Royaume-Uni, le cap des 100 000 contaminations atteints. L'Espagne a son niveau record aussi. Le port du masque en extérieur redevient obligatoire. Et la Belgique a décidé hier soir de fermer cinémas et salles de spectacle dès dimanche. À Bruxelles, Angélique Boin.
C'est une douche froide pour le secteur culturel qui espérait sauver les fêtes de fin d'année, à l'exception des musées qui ne sont pas concernés. Les cafés et restaurants soufflent également. Ils resteront ouverts jusqu'à 23 heures, comme c'était déjà le cas depuis début décembre. La moyenne des contaminations en Belgique est plutôt en baisse et la pression sur le système de soins est certes tendue, mais encore gérable. Mais il y a désormais 3 malades sur 10 contaminés par le variant Omicron. C'est une mesure préventive, a expliqué le Premier ministre Alexander De Croo.
Il faut être plus prudent que jamais. Il faut être extrêmement prudent dans une période où il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Il s'agit de mesures pour éviter que le nombre d'infections augmente d'une manière trop forte, pour éviter que nos soins de santé soient submergés et pour éviter qu'on ne puisse pas ouvrir les écoles le 10 janvier.
Les écoles qui ont fermé ici avec une semaine d'avance. Nous avions tous espéré un Noël différent, a admis le Premier ministre, mais dans ces temps incertains, il faut savoir prendre soin de soi et des autres, limiter les contacts à Noël, utiliser des autotests, a-t-il encore insisté, avant de remercier chaleureusement le personnel soignant. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Omicron sera majoritaire en France. Entre Noël et Nouvel An, sera-t-il accompagné d'un déferlement d'hospitalisation ? Deux études britanniques à prendre avec beaucoup de prudence, car encore précoce, montrent que le risque d'hospitalisation avec Omicron est réduit par rapport à Delta de 20 à 40%. Mais on ne sait pas si c'est parce que ces études portent sur des personnes déjà immunisées. Et puis beaucoup plus de malades signifie aussi potentiellement plus de cas graves à l'hôpital. Il faut donc doubler d'attention et mieux vaut éviter de se retrouver enfermé pendant 7 heures dans une voiture sans masque avec 3 inconnus. Voilà le scénario cauchemar d'une utilisatrice de Blablacar. Cette prof d'anglais comptait s'offrir quelques jours de vacances à Lille au départ de Lyon, mais arrivée au point de rendez-vous avec son chauffeur, ni lui ni les deux autres passagers n'avaient de masque. Sébastien Sabiron.
Pour Christine, 62 ans, le voyage s'annonçait bien. Conducteur ponctuel, 39 euros seulement pour un Lyon-Lille. Mais arrivé au point de rendez-vous, devant la gare de Lyon-Perrache, douche froide.
Quand on commençait à mettre les bagages dans le coffre, j'ai dit, mais bien sûr, tout le monde a son masque. Et là, ils m'ont regardé et le conducteur m'a dit, ah non, moi j'en ai pas. Le deuxième m'a dit, moi non plus. Et puis le troisième, qui le portait en gros sur le menton, il a dit, bah ouais, je suis là. Je leur ai dit, si c'est comme ça, moi je pars pas.
Christine prendra finalement le train. Réaction excessive, estime Loïc, le chauffeur. Ce trentenaire, éducateur spécialisé, invoque des raisons de confort, mais pas seulement.
D'une part, c'était un voyage long, et donc je ne m'imaginais pas porter le masque tout ce temps. Surtout, on est quand même quatre dans un espace clos. L'air est partagé, donc masque ou pas masque, voilà, la maladie, s'il y a, se propagera.
Non vacciné, Loïc ne s'estime pas pour autant être un danger pour autrui, respectueux, dit-il, des gestes barrières. Et s'il a bien nettoyé son habitacle avant le trajet, conformément aux recommandations de Blablacar, il n'a rien noté de spécifique concernant le masque.
Ça n'a pas été flagrant, enfin j'ai peut-être loupé l'information, hein. Je mets pas ça en doute, mais non, il y aurait eu une obligation, voilà, j'aurais certainement pas transporté de covoitureur.
Si le covoiturage échappe au pass sanitaire, le port du masque, lui, est bien obligatoire. Blablacar dit en informer ses usagers dans chaque mail qu'ils reçoivent, mais concède, au vu de cette histoire, que son caractère sanitaire obligatoire nécessiterait sans doute d'être spécifié.
Des masques donc dans les voitures et les trains et des tests pour Noël. La ville de Lourdes va distribuer des autotests à ses habitants, une boîte de 25 tests par famille avant Noël. Enfin, la mise en garde de l'Organisation mondiale de la santé hier, aucun pays ne pourra se sortir de la pandémie à coup de doses de rappel. Ces programmes de rappel sans discernement, dit l'OMS, ont toutes les chances de prolonger la pandémie plutôt que d'y mettre fin en détournant les doses disponibles vers les pays qui ont déjà des taux de vaccination élevés, offrant ainsi au virus plus de possibilités de se répandre et de muter.
7h05, un cadeau de Noël pour la ville de Marignane.
L'armée française vient de commander 169 hélicoptères Guépard à Airbus et à Marignane. On se réjouit car c'est ici qu'on va les produire. Ce contrat à 10 milliards d'euros assure l'avenir du site industriel pour 15 ans, se réjouit le maire Éric Lodissès.
C'est le contrat du siècle, hein. C'est énorme, hein. Ça fait vraiment plaisir. C'est une très bonne nouvelle dans cette période plus que morose. Et ça va pérenniser les emplois et ça va redonner de l'oxygène à Airbus Hélicoptère qui en a bien besoin. Marignane est associée à Airbus, donc effectivement, quand Airbus gagne, c'est Marignane qui sourit, hein, et la mère en premier. Donc, et puis c'est les fêtes de Noël, c'est le cadeau de Noël d'Airbus. Nous avons une technologie qu'il faut continuer de développer et qu'il faut vendre à l'étranger. Continuons à nous battre pour vendre nos appareils et parce que dans ce domaine-là, nous avons les meilleurs du monde.
Éric Lodissès, le maire de Marignane avec Corinne Blotin de France Bleu Provence. À 4 mois de la présidentielle, le doute s'installe à gauche. Présidentielle mal partie avec 7 ou 8 candidats, mais les législatives ne s'annoncent pas mieux. Les négociations entre partis n'aboutissent pas et le risque de disparition du Parlement commence à angoisser les élus. Laurence Perron.
Chez les écologistes, la négociatrice, c'est Hélène Hardy, aussi respectée que crainte. Elle est d'une intransigeance redoutable.
Mais parce que c'est logique, c'est pas parce que Yannick est plus extraordinaire que les autres candidats, c'est parce que on est en fait le barycentre du rassemblement que tout le monde souhaite.
La position d'Europe Écologie Les Verts ne varie pas. Un accord électoral à la condition que Fabien Roussel, Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon se rangent derrière Yannick Jadot.
Ok, est-ce que ça qu'on parle en off dans ce cas-là ?
En off, donc, Paul Vanier, le négociateur de la France Insoumise, assure que le mouvement est prêt à négocier. Pas de préalable. Jean-Luc Mélenchon est convaincu qu'il va finir par aspirer en vote utile les électeurs de gauche qui assistent, pour beaucoup très circonspects, au revirement d'Anne Hidalgo sur la primaire ou au récent tour de piste de Christiane Taubira. Le Parti communiste jure que son candidat Fabien Roussel ira jusqu'au bout, mais compte réunir tout le monde mi-janvier. Pierre Lacaze, son négociateur.
Tous se sont engagés à ce qu'on puisse se reparler mi-janvier. Et ça, c'est à l'initiative du Parti communiste. Fabien Roussel est le candidat aussi de gauche qui parle à toute la gauche.
Quant au PS, par SMS, on nous explique que la priorité actuelle, ce sont les arbitrages sur le programme d'Anne Hidalgo. La présidentielle, rien que la présidentielle, pas les législatives.
Laurence Perron et puis un nouveau ministre à l'isolement, Franck Riester, testé positif. Il l'avait déjà été au début de la pandémie en mars 2020.
Les mots de Vladimir Poutine, particulièrement attendus.
Traditionnelle conférence de presse marathon du président russe en fin de matinée en pleine menace d'invasion de l'Ukraine. Il sera aussi interrogé sur la répression de l'opposition russe depuis un an. Répression aussi à Hong Kong, encore un symbole des libertés politiques déboulonné cette nuit. La sculpture en hommage aux victimes de la répression de Tiananmen a été retirée tirée de l'université de Hong Kong. Elle était en place depuis 24 ans. En Turquie, c'est la livre qui donne le tournis. Le taux de change avait atteint des sommets en début de semaine. Les investisseurs s'inquiètent bien sûr, mais les touristes, eux, voient leur pouvoir d'achat s'envoler. À Istanbul, le reportage de Cerise Sudruledu.
Dans ce quartier touristique d'Istanbul, Faten marche le nez en l'air. Cette Française de 36 ans veut montrer le marché à sa tante et à sa cousine. Elle, c'est une habituée. Elle vient pour la 4e fois en Turquie et n'en revient pas du taux de change.
Quand je suis venue en 2015, il était à 6. Je suis arrivée en 2018, il était à 8. Et je suis arrivée en octobre, il était à 10. Et là, il est arrivé à 20. Nous, ça nous revient vraiment pas cher. Enfin, maintenant, ça a augmenté un petit peu parce que la valeur de la lira a augmenté. Mais ça reste quand même très abordable pour nous.
Les trois femmes ont de quoi sourire. Comme elles, les touristes ont vu leur pouvoir d'achat gonfler ces dernières semaines en Turquie face à une livre turque qui n'en finissait plus de dégringoler. Des conditions qui conduisent de plus en plus d'étrangers à investir dans la pierre. Serkan Kavuk, agent immobilier, l'a aussi constaté.
Sur les 3 derniers mois, beaucoup d'acheteurs étrangers ont fait appel à nous. Mais les propriétaires augmentent leurs prix aussi en fonction du dollar. Un appartement qui était vendu 1 million de livres turques il y a 5 mois vaut maintenant 2 millions. On change nos listings de prix tous les jours.
La livre turque a opéré un rebond soudain ces derniers jours, mais beaucoup d'économistes restent frileux. Istanbul, Cerise Sudruledu, France Inter.
Dernière journée de Ligue 1 de football avant la trêve. Hier soir, Paris toujours solide leader malgré son nul à Lorient. Nice termine la partie. Première partie de la saison à la deuxième place grâce à sa victoire 2-1 contre Lens. Lyon trébuche à domicile contre Metz 1-1 et le match Clermont-Strasbourg a été reporté à cause du brouillard. Et puis la Fédération internationale de basket pas du tout convaincue par ce que propose le comité d'organisation des JO de Paris, à savoir le parc des expositions de la Porte de Versailles pour les matchs préliminaires. Hauteur sous plafond insuffisante, mauvaise climatisation et risque d'humidité sur le parquet. La Fédération internationale de basket demande des garanties écrites pour valider le site. La case la plus gourmande du calendrier de l'Avent du service culture d'Inter. Un livre de recettes pour revivre vos dessins animés préférés. De Ratatouille à Kirikou. Son auteur, Mine Trivo, a visionné tous ses films d'animation et c'est le coup de cœur d'Alexis de Meyer.
Est-ce que t'aurais la gentillesse de me passer un donut?
Un donut? Mais qu'est-ce que c'est?
Ah, les beignets d'Homer Simpson et la pizza des Tortues Ninja et le bonhomme en pain d'épices de Shrek. Les dessins animés regorgent de références culinaires qui ne sont jamais placées là par hasard. Sébastien Rost, des éditions Inis, est à l'origine du projet.
La nourriture est un vecteur culturel. Par exemple, quand on voit la fameuse scène des spaghettis boulettes dans La Belle et le Clochard, on se rend bien compte qu'on a affaire à des immigrés italiens, que du coup, comme ils sont eux-mêmes un peu exclus, ils peuvent nouer une amitié avec le clochard qui lui également est un peu mis de côté par la société.
Bandito dit qu'il vaut des spaghettis spéciales.
Avec une très bonne idée, les 23 recettes sont toutes accompagnées d'un texte qui détaille leur rôle dans le film.
On a en préambule une contextualisation de la recette et les points intéressants. Si c'est une recette étrangère, bah quel rôle elle a dans le pays? Est-ce qu'elle est utilisée d'une manière spécifique artistiquement? Est-ce qu'elle vient sur un moment de respiration ou est-ce qu'au contraire elle accélère le rythme? Et en fait, en faisant la liste de ces grands films d'animation, on s'est aperçu qu'on pouvait aussi les situer aux quatre coins du globe. Donc on se retrouve avec les recettes du monde.
Et puisque nourriture terrestre et intellectuelle se marient très bien, il est vivement conseillé de concocter le plat avant de lancer le film, ce qui vous permettra par exemple de déguster votre gâteau à la citrouille en dévorant l'étrange Noël de Monsieur Jack.
Eh ben voilà, ça fait envie, hein, les recettes du monde dans les films d'animation. C'est chez Inis Édition et ça coûte 18 euros, Jérôme.
Spaghetti boulette et gâteau à la citrouille demain soir. Qu'est-ce que vous en dites, Anaïs?
Pour le réveillon, ouais, c'est pas
pourquoi
mal.
Pourquoi pas. Anaïs Feuga pour le journal. Dans 3 minutes, le Zoom. Nous serons sur les traces du loup dans le massif des Bauges.